Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les cas déclarés de coronavirus augmentent dans le monde et en France. D'ailleurs, en France, l'épidémie de Covid-19 a fait 4032 morts dans les hôpitaux. Selon le dernier bilan communiqué par le directeur général de la Santé, ce sont 509 nouveaux cas enregistrés dans les dernières 24 heures. 24 639 personnes hospitalisées, 6000 en réanimation. Le gouvernement français a annoncé une prolongation du confinement de 2 semaines, portant la fin des mesures au 15 avril. Parmi les cas confirmés de Covid-19, on distingue 2 catégories. Les cas sans symptômes, qui par précaution doivent rester confinés ou isolés à domicile, et les cas symptomatiques qui doivent être placés en chambre isolée dans un hôpital habilité. Alors comment se passe le confinement à domicile pour les personnes testées positives? Quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis de sa famille? Nous en parlons avec nos invités. D'abord, nous allons faire un point avec eux sur la situation de la maladie en France et sur le continent africain. Normalement, vous êtes connecté au téléphone de la radio africaine, docteur Sophie Fégu. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin infectiologue. Vous êtes chargé d'expertise et de projet sur les risques infectieux à Santé publique France. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, docteur.
Bonjour, je vous entends bien. Merci d'avoir invité.
Merci. Et normalement, avec nous en direct de la Côte d'Ivoire, Abidjan, le docteur Anno Marin. Il est médecin, donc basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est directeur médical de l'espace médical La Pyramide. Merci d'être avec nous, docteur Anno Marin. Vous nous entendez également?
Oui, je vous entends, mais faiblement. Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors, on parlait du bilan concernant la France. Donc, à quel stade de l'épidémie sommes-nous arrivés aujourd'hui en France? Sophie Fégueux, bonjour. C'est pour vous la première question.
Bonjour, ben vous savez, nous sommes déjà au stade 3 depuis quelques jours. Ça veut dire que on est à un stade où toute la France est touchée. Donc l'épidémie circule dans toute la France, y compris dans les territoires, départements et territoires d'outre-mer.
Alors est-ce que le pire est à venir selon vous, ou est-ce qu'on est arrivé au pic de l'épidémie en France?
Alors, vous savez qu'il y a donc le confinement qui a été mis en place. Donc, on espère que grâce à ce confinement, on va arriver à stabiliser la situation. Donc, pour l'instant, vous avez donné les chiffres. Donc, on voit qu'il y a toujours un nombre de décès et un nombre d'hospitalisations, réanimations, hein, qui sont vraiment des chiffres qui montrent la gravité de cette infection. Donc, pour l'instant, on voit des chiffres qui augmentent encore, mais c'est pas non plus des augmentations vertigineuses. Et on espère vraiment que grâce au confinement, on va arriver à un plateau, on espère, le plus rapidement possible.
Alors justement, les effets de ce confinement, est-ce qu'ils sont déjà visibles ou faut-il attendre encore plusieurs jours, voire quelques semaines?
Alors, on pense que donc il y a eu des études, en particulier il y a une étude anglaise qui est sortie il y a 2 jours. On pense que le fait d'avoir fait les confinements, par exemple en France, ils ont étudié dans plusieurs pays d'Europe, on pense que ça a permis de diviser par 2 le nombre de morts. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut constater sur le terrain, mais les études montrent déjà que déjà maintenant, le confinement a sûrement eu un effet très positif sur à la fois le nombre de malades et le nombre de décès.
Docteur Anno Marin, en tant que médecin basé à Abidjan, quel regard portez-vous sur la situation française?
Alors, malheureusement, j'ai très mal perçu les propos de ma consoeur française. Je ne sais pas si le son il était pratiquement inaudible. Alors, je ne pourrais pas donner de réponse exacte à partir de ce qu'elle aurait dit, mais ce que j'aurais constaté, c'est qu'il y a un respect du confinement en France. Et ce que nous voyons sur les médias, il y a une éducation des populations avec des mesures rétorsives. Je pense que le confinement, il est mieux appliqué là-bas qu'Abidjan en Côte d'Ivoire.
Alors justement, les cas confirmés se multiplient sur le continent africain. Comment vous l'expliquez?
Alors, c'est dû à cette difficulté de pouvoir confiner les gens. Et les cas se multiplient en Afrique. D'abord, c'est des cas importés sur le continent de maladie. On se rend compte qu'elle part
avec... On vous entend très très mal, docteur Anomarin. Allô, allô, oui. Docteur Marin, vous nous entendez?
Oui, moi je vous entends.
Allez-y, continuez alors.
Bien, mais le souci n'est pas. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant mieux.
Oui, on vous entend mieux.
Voilà. Alors, comme je disais, les pics qui se passent actuellement dans les pays africains répondent à l'évolution épidémiologique de cette maladie. Où est-ce qu'à partir d'un cas zéro, on a des petits temps de multiplication des cas contacts, les cas contacts sont très confirmés. Donc, on monte jusqu'à un pic et après, il faut chercher à stabiliser ce pic.
Alors, docteur Anomarin, êtes-vous inquiet que la maladie progresse dans votre pays, en Côte d'Ivoire?
Oui, bien sûr. Bien sûr que je sois inquiet quand on voit la gravité de cette maladie et quand on voit, il ne faut pas se cacher, notre système de santé dans le cadre d'une prise en charge d'une infection massive, il y a de quoi être inquiet.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a-t-il bien fait, selon vous, de prendre des mesures assez drastiques hein, quand même? Confinement, école fermée, fermeture des cafés et des restaurants. Que pensez-vous de ces mesures?
Ah oui, moi je pense que ces mesures sont justes et sont valables. Elles permettent l'isolement de toutes les personnes qui seraient... ça permet de pouvoir éviter la propagation, la transmission de la maladie de manière sectorielle dans toutes les zones. Ces mesures sont les bienvenues.
Alors, pour finir avec le cas de l'Afrique, peut-on craindre qu'après l'Europe, l'Afrique ne devienne le nouvel épicentre de l'épidémie, docteur?
On peut craindre. Dire qu'on ne craindrait pas serait vraiment ne pas être sincère envers soi-même. Il faut craindre à cause de nos us et coutumes, à cause de nos faits sociaux, de notre précarité, de notre mode de vie. Où est-ce que nous avions une société, où est-ce que la vie communautaire, elle est incontrôlable. Ce n'est pas comme en Europe, où est-ce que bien. C'est vrai que même dans certains pays asiatiques, on a des confinements de population. Ici, aujourd'hui, c'est ces facteurs-là, les uns les autres. Et puis, c'est la prise de conscience effective des populations,
oui,
de la présence de cette maladie. Et ensuite, de la gravité de cette maladie. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avions connu dans les années 2002 une guerre. Après 2010, il y avait une crise post-électorale. C'est des fusils, ils ont dit. Et là, en 2020, lorsque on leur dit que nous sommes en guerre avec un ennemi invisible, est-ce qu'ils en prennent conscience vraiment de la réalité, de la gravité, comme le disait le président Macron, que nous sommes vraiment en guerre? Et en Côte d'Ivoire, le président l'a dit. Il faut prendre les armes. Donc aujourd'hui, c'est ça notre difficulté lorsque nous faisons la sensibilisation. Nous avons en face de nous des gens qui n'y croient pas du tout, qui se disent franchement c'est une maladie d'Europe, d'Asie, qu'on a vu le SRAS à ce continent en Asie, oui. Le c'était chose au Moyen-Orient, c'était en Chine. Alors,
alors le docteur Anomarin, oui. Allez-y, terminez, docteur. On ne vous entend pas très bien, la ligne n'est pas très bonne. Alors on va revenir avec vous, Sophie Fégueux. Peut-être que vous nous entendez mieux. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos du docteur Nomarin. Alors parlons à présent avec vous de la prise en charge à domicile et les précautions à adopter si on est testé positif. Alors on est testé positif et les médecins nous demandent de rester confinés chez nous. Alors quelles sont les précautions à prendre dans ce cas ?
Alors, d'abord, je veux juste vous dire que à l'heure actuelle, la plupart des gens qui vont faire, dans plus de 80% des cas, des petits signes pas graves, ils seront pas hospitalisés. Donc, si votre médecin vous fait un diagnostic de Covid, s'il n'y a pas de signes de gravité, le plus souvent, vous resterez à la maison. Donc, ouais. C'était pas le cas au début de l'épidémie, mais maintenant, la plupart des gens, on leur dit de rester chez eux, comme tout le monde d'ailleurs. Alors, les gens maintenant, ils n'ont pas forcément le test, donc ils n'auront pas toujours la confirmation par le test, parce que le test, pour l'instant, il est réservé à un certain nombre de gens, c'est-à-dire les gens qui ont des signes de gravité, donc ça concerne pas les gens qui seront à la maison, les professionnels de santé, parce que là c'est important puisque c'est eux qui soignent les gens tous les jours, les personnes à risque, c'est-à-dire c'est les personnes qui risquent de faire des formes graves, et puis dans des collectivités comme les EHPAD, les premières personnes qui seront malades. Donc les autres personnes, à l'heure actuelle, elles n'auront pas forcément de test, oui. Mais par contre, quand elles appelleront leur médecin, parce que maintenant on conseille de pas aller au cabinet médical, de pas aller aux urgences, sauf s'il y a un gros problème, une sévérité importante. Dans les autres cas, on reste à la maison, on appelle son médecin, et le médecin pourra dire, ben voilà, en ce moment, vous toussez, vous avez de la fièvre, vous avez d'autres signes, par exemple, comme la perte de l'odorat. Voilà, il y a un certain nombre de signes qui font que le médecin va vous dire, ben voilà, vous avez probablement le coronavirus, donc pour l'instant, vous restez à la maison, comme tout le monde, mais vous faites encore plus attention que les autres, quoi.
Alors justement, dans ce cas, est-ce qu'il faut totalement s'isoler de sa famille, de sa femme, de ses enfants qui vivent sous le même toit ? Est-ce qu'on doit rester dans des chambres séparées lorsque le médecin nous a dit que probablement, on était peut-être porteur du Covid-19 ?
Alors, l'idée, quand même, c'est d'essayer au maximum d'éviter les contacts avec les autres, pour éviter de le passer à quelqu'un d'autre. Donc, le mieux, si c'est possible, donc on sait bien que c'est pas possible pour tout le monde, c'est d'avoir sa pièce à soi quand on est malade. Si c'est pas possible, en tout cas, l'idée, c'est de toujours rester au moins un mètre de distance des autres. Mais l'idéal, c'est d'être dans une pièce séparée, quand même. L'idéal, évidemment, c'est de rester dans sa chambre, même si c'est pas très drôle. Donc, si on a un contact avec les autres membres de la famille, c'est toujours à plus de 1 mètre et on essaie de pas faire durer le contact trop longtemps, pas plus de 15 minutes. Et bien sûr, on ne touche pas les autres, on ne les embrasse pas, enfin, voilà, dans la mesure du possible, bien sûr.
Alors justement, faut-il se laver tous les jours, laver ses vêtements, les couverts que l'on utilise pour ne pas transmettre le virus à un membre de la famille lorsqu'on est suspect, en fait ?
Oui, alors le plus important, c'est le lavage des mains. Donc le lavage des mains, l'eau et le savon. Hein, à la maison, on n'a pas besoin d'avoir, à partir du moment où on a un point d'eau, on n'a pas besoin d'avoir le soluté hydroalcoolique. Le savon, ça marche très très bien contre le coronavirus. Donc on se lave les mains le plus souvent et on les sèche ensuite avec une serviette ou un essuie-main. Donc ça, vraiment, le lavage des mains, c'est la chose la plus importante. Quand on tousse aussi, on essaie de prendre tout ce qui est mouchoir à usage unique et on les jette, hein, c'est important. On essaie de pas se toucher les yeux, le nez, la bouche. Et alors après, effectivement, on fait attention à la vie quotidienne, c'est-à-dire on partage pas un certain nombre de choses. On partage pas les serviettes, les gants, les couverts. On fait attention aussi à des choses auxquelles on pense pas forcément, comme le téléphone. Donc tout ça, on évite de partager, parce que le virus, il est transmis par les gouttelettes respiratoires, mais il se dépose en particulier sur un certain nombre d'objets, et puis beaucoup les mains. Donc les mains, c'est quand même la grande chose auquel il faut penser. Et c'est pas très compliqué, il faut juste y penser, quoi. C'est lavage des mains avec le savon.
Oui. Quelles sont les précautions à prendre pour les résidents de l'immeuble, par exemple, lorsqu'on habite en collectivité ?
Si vous restez confiné, a priori, il n'y a pas de problème pour les autres. Hein. C'est Donc si jamais vous êtes obligé de sortir, mais normalement quand, au moment où vous êtes malade, il vaut mieux éviter de sortir. Et ben c'est toujours de se mettre à distance, donc toujours à plus de 1 mètre, et puis d'éviter de toucher les objets utilisés en commun. Alors je sais pas pour l'ascenseur, la rampe d'escalier, tout ça. Ouais. Alors vous me parliez du nettoyage. C'est vrai que le nettoyage, c'est aussi des choses importantes. Alors, il y a le nettoyage du linge. Donc, ça, c'est simple. Si vous avez une machine à laver, c'est de passer à 60. Donc, ça détruit le virus. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qui ne peut pas être lavé, c'est de le laisser de côté pendant 1 ou 2 jours sans l'utiliser. Parce que le virus, il va pas survivre. Et puis, alors, tout ce qui est les surfaces, la salle de bain, tout ça... Alors, il y a 2 choses qui marchent très bien. Il y a d'abord l'alcool à 70, parce que le virus n'aime pas l'alcool. Hein. D'ailleurs, dans les solutés hydroalcooliques, c'est de l'alcool. Donc, l'alcool à 70, ça marche très, très bien. Et tout ce qui est bouton de porte, les choses comme ça, ordinateur, téléphone, c'est assez pratique. Et sinon, l'eau de Javel diluée, bien sûr, ça marche très, très bien. Donc, pour faire le ménage, l'eau de Javel diluée, bien sûr.
Alors, on parle de médicaments également il ne faudrait pas prendre. Alors, quels sont les médicaments qu'il ne faut pas prendre lorsque l'on est confiné?
Alors, c'est surtout quand on est malade, si on a de la fièvre, il y a une famille de médicaments qu'il ne faut pas prendre, sauf si, bien sûr, le médecin vous dit de les prendre, c'est les anti-inflammatoires, donc par exemple l'ibuprofène. Donc ça, c'est des médicaments, mais c'était pas le cas qu'avec le coronavirus, c'est le cas avec d'autres infections. Ça peut aggraver l'infection. Donc les anti-inflammatoires, on les prend pas sans un avis médical. Par contre, si on n'est pas bien, qu'on a de la fièvre et tout ça, il y a quelque chose qu'on peut prendre, c'est le paracétamol. En étant quand même, donc ça marche à la fois sur les douleurs et la fièvre, mais on doit pas dépasser 3 grammes par jour pour un adulte. Donc 3 gélules ou 3 comprimés de 1 gramme par jour. Faut pas en prendre trop non plus. Mais ça, c'est un bon traitement pour à la fois la douleur et la fièvre.
Allez-y, docteur.
Un autre point important, c'est qu'il faut pas arrêter ces traitements habituels.
Ouais.
Et il faut toujours, si vous avez des questions et tout ça, appeler votre médecin, mais vous faites pas d'automédication et vous arrêtez pas vos traitements habituels. Ça, c'est très, très important.
On voit apparaître de nombreuses fake news concernant certains médicaments, des produits jugés miracles. Alors qu'est-ce qu'on doit dire aux auditeurs qui nous écoutent concernant toutes ces informations qui arrivent en masse sur Internet?
Alors les produits miracles, ça existe pas. Donc il y a un certain nombre de produits qui sont en cours d'étude. Donc il y a plein d'études qui sont conduites en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc on aura les résultats d'ici quelques semaines. En attendant, comme je dis, on ne prend pas n'importe quel médicament. On se méfie beaucoup des fake news. Donc maintenant, il y a des sites où vous pouvez vérifier les fake news.
Oui.
Et on n'hésite pas à demander l'avis de son médecin ou de son pharmacien.
Alors, on va finir avec les conséquences psychologiques. Quelles sont justement les conséquences psychologiques pour un foyer quand l'un de ses membres est testé positif, docteur?
Alors, déjà, on sait que la période de confinement, c'est pas facile, hein, c'est compliqué pour beaucoup de gens. C'est quelquefois d'ailleurs plus compliqué pour les gens qui sont tout seuls. Hein. Quand on est dans un appartement, nombreux, etc., c'est vrai que de toute façon, c'est déjà compliqué. Mais le fait d'avoir quelqu'un en plus qui est malade, ça aggrave l'anxiété, à la fois de la personne qui est malade parce qu'elle a peur de transmettre aux autres, puis elle a peur elle entend des nouvelles alarmantes, elle a peur que son état de santé s'aggrave. Et puis, de l'autre côté, les autres membres de la famille qui, eux, sont inquiets pour eux, qui sont inquiets pour la personne qui est malade. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est assez difficile à vivre pour un certain nombre de gens. Alors, il faut savoir qu'il y a des lignes d'écoute qui se sont mises en place. Il y a un numéro vert que je pense que vous avez déjà donné. Donc, faut pas hésiter dans cette période qui est quand même difficile, si on n'est pas bien, de faire appel à tous ces systèmes qui essaient d'aider les gens à distance. Et puis toujours, bien sûr, vous pouvez appeler votre médecin, en parler au pharmacien. Voilà, faut pas hésiter à faire appel à de l'aide.
Alors, on va finir avec le cas des enfants et des adolescents, par exemple, lorsqu'ils présentent les symptômes et qu'on suspecte qu'ils aient le Covid-19. Quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner? Parce qu'on sait que c'est pas évident de dire à des enfants et à des adolescents qu'il faut se confiner et qu'il faut faire attention, docteur.
Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Alors déjà, une bonne nouvelle, c'est quand même qu'on sait que les enfants et les adolescents, globalement, ils sont porteurs de la maladie, mais ils font très très rarement des formes graves. C'est exceptionnel. Il y a eu le cas d'une jeune fille de 16 ans. C'est vraiment exceptionnel de façon générale.
Il y a plusieurs cas quand voilà. même. Enfin, ce sont des cas rares, mais il y en a eu quelques-uns.
Voilà, c'est vraiment exceptionnel. On en parle parce qu'en fait, par rapport à l'ensemble des cas, c'est quand même très 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 rare. Donc, on sait bien que les personnes à risque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les aînés, donc les gens qui ont plus de 70 ans, et puis les personnes qui ont des risques, hein, des facteurs de risque, qui ont des maladies chroniques, qui ont de l'obésité aussi. Tout ça fait que les enfants et les adolescents, bien entendu, c'est un souci, mais il faut pas être trop inquiet pour eux. La question, c'est plutôt qu'ils peuvent transmettre à quelqu'un d'autre, qui là sera plus fragile. Et puis d'autre part, qu'effectivement, comme vous dites, c'est quand même très très compliqué pour les enfants et les ados. En plus, il y a plus d'école. Les tout petits, c'est quand même très compliqué de leur dire qu'il faut éviter les contacts. Donc je crois que le conseil qu'on donne, c'est de faire au mieux, c'est-à-dire de bien expliquer, d'expliquer ce qui se passe sans dramatiser, mais en faisant prendre conscience que c'est important, surtout si c'est des ados. Ne pas hésiter à demander de l'aide par téléphone si on s'en sort pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué, pour les familles, c'est pas facile, ça, on est tout à fait conscient.
Avant la fin de l'émission, docteur Sophie Fegue, je vais vous laisser dire un dernier mot. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quels sont les derniers conseils que vous avez envie de donner aux auditeurs qui nous écoutent ce matin?
Les conseils, c'est d'être tous très solidaires, de penser à nos aînés, aux gens fragiles, hein, qui sont les gens qui vraiment courent des risques en ce moment, de faire attention à tous et puis de bien suivre les mesures. Donc on les répète tout le temps, mais c'est vraiment très très important, c'est-à-dire se laver les mains tout le temps, rester à distance, voilà, essayer vraiment d'appliquer toutes ces mesures. C'est fait pour, ça embête les gens, mais c'est pour l'intérêt général. Et on voit que la grande majorité des gens, même si les conditions sont difficiles, le font, et il faut vraiment les encourager à continuer.
Merci beaucoup, docteur Sophie Fegue. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue chargé d'expertise et de projets sur les risques infectieux à Santé publique France. Merci beaucoup de vous être rendu disponible pour les auditeurs de la radio africaine ce matin. On remercie également le docteur Anno Marin, médecin basé à Abidjan, Côte d'Ivoire, directeur médical de l'espace La Pyramide à Abidjan. On a dû raccrocher parce que la connexion a été très mauvaise. On vous salue, docteur, et on vous remercie beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci à vous pour tout ce que vous faites. Au revoir.
À très bientôt dans un instant à la pause. On va continuer avec Ambiance Africa qui arrive dans un instant.